Campus.
Je pense qu'il est urgent d'éliminer au plus vite et définitivement la cause même de la perturbation.
88.3.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurices. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Et maintenant, c'est l'heure de parler cinéma. On va parler de l'actualité cinématographique. Et heureusement, je ne suis pas seule ce soir. J'ai donc avec moi Claude. Bonsoir, Claude.
Bonsoir, Céline. Bonsoir à toutes et à tous.
Comment tu vas ?
Ça va.
Pas trop fatigué ?
Non, ça va.
Je crois que tu as été au Festival Récidive.
Je suis allé effectivement au Festival Récidive, non seulement vu un certain nombre de films, mais surtout assisté à des conférences qui étaient, je dois dire, d'un excellent niveau. Pas uniquement celles animées par Antoine Debecq, mais il y avait d'autres personnes... notamment des stagiaires de Normal Sup qui étaient là, qui étaient effectivement de très grands connaisseurs du cinéma.
Donc il faut rappeler aux auditeurs que donc Récidive, c'est un festival qui est proposé alors au Cinéma des Carmes cette année, mais il y a eu aussi le Théâtre d'Orléans sur la première édition. qui relançait donc la toute première édition du Festival de Cannes qui avait 39, été annulée en 1939,
Cannes 39, oui.
Liée donc à la Seconde Guerre mondiale qui a commencé à ce moment-là. Et donc c'est l'association Jean Zay qui a donc initié cette idée d'organiser cette édition annulée à Orléans. Donc c'était donc Récidive Cannes 39, pardon. C'était Cannes 39, donc la première édition. C'était, si je ne me trompe pas, c'était avant le Covid, hein, la première édition, Claude.
Oui, c'était avant le Covid, oui.
En 2019, il se pourrait. Bon, je me trompe peut-être. Et donc, suite à cette première édition Cannes 39, l'envie était de continuer à faire un festival de films à Orléans et qui s'appelle donc Récidive. Et cette année, la thématique, c'était 68.
C'était 68, et mai 68, avec la présence de Marin Karmitz, que je n'avais pas vu depuis 55 ans. Mais je l'ai reconnu tout de suite. Il est comme moi, il a beaucoup perdu en taille, mais je l'ai reconnu. Ce qui nous a permis d'ailleurs de voir un certain nombre de ses films, notamment ses premiers courts-métrages que je ne connaissais pas, et qui sont extrêmement... intéressant, notamment sur la forme cinématographique qu'il adoptait à l'époque. Il faut savoir que Marin Karmitz a fait... alors, à l'époque, ça devait être l'IDEC, hein, ça devait pas être la FEMIS. Ça devait être l'IDEC. Et j'ai appris un certain nombre de choses, notamment que il est roumain, et il a émigré de la Roumanie en je sais plus quelle année... juste après la guerre, je crois. Et je ne savais pas qu'en Roumanie, on interdisait l'école aux Juifs. Ce qui est quand même une privation, je veux dire...
En quelle période ?
C'était dans les années, je pense, après la guerre, puisque il est arrivé, je crois, en 1947 à Nice. Donc il avait 7 ans, il n'avait pas été à l'école, quoi. Donc, il a 84 ans, hein, Marin Karmitz. C'est quand même une privation extrêmement importante, ne pas avoir le droit à l'éducation. C'est une des choses qui est le plus grave pour un peuple et une nation. Donc, j'ai appris ça. Et puis, le thème était mai 68. Et j'ai appris beaucoup de choses sur un certain nombre de cinéastes pendant mai 68. Et ça, j'ai notamment appris, parce que quand on vous parle de mai 68, on vous repasse toujours la fameuse Cannes, la fameuse prise de position de Truffaut et de Godard à Cannes. Vous nous parlez de Travning, vous nous parlez de Plan, alors que les ouvriers sont en grève. Mais en fait, Godard n'était pas très à l'aise, pas du tout à l'aise pendant mai 68. Il n'était pas bien, il ne savait pas de savoir de quel côté il était, mais il ne savait pas l'action qu'il devait mener ou pas. Et parmi les plus virulents, alors là j'étais très surpris, il y avait un garçon qui, Dieu sait si c'est un indépendant et un autonomiste, voire anarchiste de droite, et ben c'était Chabrol. Chabrol a été un des plus virulents pendant pendant mai 68. Il était de toutes les barricades, il était, sa femme disait, rentrait la nuit à 4-5 heures du matin, épuisé, il repartait le matin, et il avait fait des propositions d'ailleurs pour ce qui est devenu la fameuse taxe sur les billets de 11,60 pour le CNC, pour pouvoir favoriser. Oui, il avait des idées. Mocky était aussi extrêmement. Lui, c'est un indépendant. C'est marrant, c'est tous ces types qui sont extrêmement autonomes et indépendants ont été parmi les plus actifs en mai 68. Et Godard n'était pas. Il ne savait pas. Il était un peu perdu. Il ne savait pas. Il ne savait pas quoi faire, en fait. Il ne savait pas.
Mais il était positionné quand même.
Oui, il était positionné. Ben, on voit sa position à Cannes, mais. Godard, moi j'ai toujours dit que c'était un type très riche qui voulait devenir un prolo. Et quant à notre ami Truffaut, c'était un type du peuple qui voulait devenir absolument célèbre. Donc il a beaucoup travaillé à son image. Bon, voilà, c'est et un autre qui a été très actif, un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est Louis Malle, a été extrêmement actif en mai 68. Mais Chabrol était, paraît-il, absolument déchaîné. Bon, voilà, ça c'est des choses que j'ai apprises. Il y a eu beaucoup de...
Et voilà, ce sont les aléas du direct.
Il y a eu beaucoup de... Il n'y a pas que chez nous, à France Inter, ça arrive aussi. Nous n'allons pas nous comparer à cette excellente radio. Alors, moi, ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que mai 68 a donné quand même naissance à des cinéastes qu'on ne connaissait pas et à un type de cinéma qu'on ne connaissait pas. Je pense notamment à Claude Faraldo, avec Boff, qui était quand même un des cinéastes. Il était livreur de vin. Voilà ce qu'il était. Et d'ailleurs, Boff, c'est ou l'anatomie d'un livreur de vin. Alors, je ne sais pas si tu as vu Boff, mais c'est assez typiquement l'après mai 68. C'est un garçon, un type qui... Je ne sais plus qui joue ce garçon, enfin cet homme, qui voit un matin ses copains aller pointer à l'usine, puis s'assoit sur un banc, il dit non, ça c'est fini, plus jamais j'irai pointer à l'usine. Et il va vivre au crochet de son fils qui lui travaille. Et je ne dis pas la suite, ce qui se passe dans la famille, mais ça donnait le leçon à des cinéastes complètement iconoplastes, qui ont abordé des sujets qu'on n'abordait pas avant mai 68. Donc ça, on n'a pas vu les films de ces gens-là, comme on n'a pas vu le film de René Alliot qui s'appelle Pierre et Paul, qui est un film qui a été tourné en 67 et qui est un film où il y a tous les ingrédients de mai 68. Mais tout ce qui a donné naissance à l'explosion de mai 68 est dans ce film. Il y a un moment extraordinaire dans les histoires de Pierre et Paul. On voit toute une barre de HLM. Il est 7h15 du matin et on n'entend qu'un bruit de rasoir partout. Tout le monde se rase à la même heure. Et ce film, il est sorti en 69. Ça a été un bide phénoménal parce que les gens ont dit « Oh, ben on connaît, c'est mai 68 ». Ben oui, sauf qu'il avait tourné en 67 et qu'il avait absolument... Il avait été complètement prémonitoire parce qu'il savait ce que ça allait donner. Donc, le Récidive repart l'année prochaine avec 89. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est 89, 89, c'est quand même la chute du mur de Berlin. Et l'invité d'honneur sera Margaret von Trotta. Mm-hmm. Comme cette année, c'était Marin Karmitz. Moi, j'avais vu un long métrage de Marin Karmitz, mais je n'avais jamais vu ses premiers courts-métrages qui sont extrêmement intéressants. Alors, on sait que Marin Karmitz, aussi, après 68, a créé, peut-être même avant MK2, et est devenu un producteur, très influent dans le cinéma français, et notamment de par les cinémas MK2 qui diffusaient un certain nombre de films qu'on ne voyait pas. Avait des difficultés à voir sur les écrans français. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, la difficulté, c'est que je ne pouvais pas être partout en même temps et qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps, à la fois le film, à la fois les conférences qui étaient à Canopée et que je trouve très bien parce qu'il y a une proximité avec les Carmes. Et on n'avait pas à aller se balader, prendre le bus pour aller au théâtre. Et moi, si... Ce format-là est reproduit l'année prochaine pour 89. Je trouve ça très bien sur le plan organisationnel. On gagne beaucoup, beaucoup de temps. En 5 minutes, on passe des Carmes à Canopée et vice-versa.
Oui, effectivement, c'était plutôt pratique. L'atelier Canopée est vraiment à côté et tout à fait adapté pour des rencontres, des conférences. C'est un lieu qui est un lieu à destination pédagogique.
Tout à fait. C'est tout à fait cohérent. Les conférences ont lieu au premier étage. Et j'ai vu alors un film de Rotman, Patrick Rotman et d'une historienne qui était présente là pour parler du film qui est sur mai 68, qui a été fait avec Patrick Rotman. Et elle a dit des choses extrêmement intéressantes. Enfin, mai 68, je connaissais, mais bon, il y avait Antoine Pro qui était là d'ailleurs. j'ai quand même appris un certain nombre de choses. Et moi, ce qui m'a énormément surpris sur ce film, que j'avais déjà vu, mais je l'avais vu à la télévision, parce que c'était un film fait pour la télévision, et quand on le voit sur ce grand écran... Alors, il y a deux choses qui m'ont surpris quand j'ai vu ce film sur mai 68. Premièrement, c'est que le pouvoir était complètement, j'allais dire, dépassé et n'avait pas du tout anticipé. Mais ils étaient sur une autre planète, ce qui n'a pas changé d'ailleurs. On est toujours là, c'est toujours pareil. Et c'est la qualité des intervenants. Alors, qu'ils soient hommes politiques comme Chirac, qui était secrétaire d'État, comme Perfitte, qui est interrogé, comme Grimaud, le préfet de police, comme on a eu Fouché aussi, quand on voit la qualité. Alors, y compris Georges Segui, qu'on voit, y compris les ouvriers qui étaient interrogés, ils avaient un langage mais extrêmement élaboré, choisi et précis. On est très loin, surtout très loin, surtout dans la classe politique actuelle, de ce qu'on entend. Mais on est à des années-lumière. Alors, je ne sais pas ce qui fait qu'il y a une dégradation du langage, mais moi, ça m'a sauté aux oreilles. J'entendais...
Je ne sais pas si on veut parler de dégradation. Après, il y a une évolution de la langue française. Et,
oui.
Et, mais pourquoi pas, en fait?
Mais oui, pourquoi? Il peut y avoir une évolution de la langue française en utilisant des mots qui sont plus adaptés à notre modernité ou au monde d'actuel. Mais ce qui n'exclut pas de s'exprimer correctement. Mm-hmm. Moi, quand j'entends... un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, en ce moment, je comprends pas. Y compris quand on entend parler Georges Segui, c'est extrêmement précis, élaboré. Et en plus, je veux dire qu'il y a, une synthèse, il y a une analyse qui est, extrêmement précise. Quand j'entends... Je ne suis pas du tout chiracien, mais quand j'entends le jeune secrétaire d'État Jacques Chirac parler, on se dit, s'il revenait maintenant, ça serait... Et alors, je ne parle surtout pas d'un homme que j'admire beaucoup, qui est Mendès France, parce que là, on est dans un autre monde. Et ce sont pourtant des gens qui parlent avec des mots simples.
Oui, c'est une autre époque.
C'est une autre époque, mais bien sûr qu'on ne parle pas comme au XVIe siècle, je suis d'accord. Mais... non, moi je pense qu'on a beaucoup, beaucoup perdu.
Eh bien, moi je voudrais aussi préciser sur Récidive, et où j'étais très déçue, et bon, j'en ai déjà parlé il y a deux semaines, mais c'est l'invisibilité des femmes cinéastes dans cette programmation, alors que sur cette période de 68, il y a quand même des femmes qui ont réalisé des films. Je pense notamment à Carole Roussopoulos avec Delphine Seyrig, ou Marguerite Duras aussi. Enfin, je trouve que c'est dommage que la place des femmes n'était pas présente lors de cette programmation. Et si, il y avait Agnès Varda, mais avec un court-métrage, je trouvais que c'était très, très limite.
Mais il y avait un court-métrage de Marin Karmitz qui a été fait en collaboration avec... comment s'appelle cette écrivaine née au Vietnam.
Une écrivaine, Annie Ernaux, peut-être.
Non, de l'époque, elle est.
De l'époque. Alors, de quelle époque?
Comment elle s'appelle? Je connais qu'elle. Marguerite Duras. Il a fait un film avec Marguerite Duras. Oui. Et alors, c'est très curieux. Hein. C'est le film, c'est du Duras tout pur. C'est. Et mai 68, qui a été fait par Patrick Roman et cette femme, dont j'ai Linhart, je crois, c'est elle, cette femme, qui a présenté le film. C'est pas un homme qui a présenté le film, mais c'est la femme qui est venue présenter ce film. Et qui a présenté son film, un film que je n'ai pas pu voir, malheureusement, qui était mai 68 et moi, je crois.
Et c'était un court-métrage, du coup?
Non, Patrick Roman, non, c'était un film de télé.
Non, je pensais justement avec Marguerite Duras. Oui, effectivement, je le vois, c'est d'après un scénario de Marguerite Duras.
Oui, oui.
Oui.
Mais c'est, on se demande si c'est pas Marguerite Duras qui a filmé. Hein. C'est tout à fait, dans son écriture cinématographique.
Je trouve que c'est quand même dommage de ne pas avoir au moins programmé quelques films réalisés par des femmes. Mais bref.
On verra pour 89, mais oui, je ne pense pas qu'il y ait plus de femmes qui aient réalisé en 89.
Je ne pense pas non plus, malgré qu'il y ait quand même plus de femmes. Il y a toujours plus de femmes cinéastes, heureusement. Mais
ce soir, on va parler de deux films faits par des femmes.
Oui, parce que je n'ai vraiment pas eu le temps d'aller au Festival Récidive, malgré qu'il y ait eu beaucoup de films quand même de qualité. J'ai préféré plutôt aller voir les films à l'affiche actuellement.
Ah, c'est bien.
Et dont deux films effectivement réalisés par des femmes. Sauf si tu as autre chose à dire sur Récidive,
non,
je te
pas...
propose de faire...
Non, on pourrait dire beaucoup de choses, mais...
Oui, certainement, on pourrait faire une émission entière.
Je m'en tiendrai là.
Eh bien, je te propose de faire une pause musicale avec la bande originale d'un film qui a eu pas mal de succès quand même en France, qui est le dernier Steven Spielberg, The Fabelmans, et qui a fait appel encore une fois au compositeur qui est très, très connu, John Williams, et qui a donc composé la bande originale de Fabelmans. Et donc, on écoute un morceau et on se retrouve juste après. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans avec l'émission « Alors, on se fait un film ». Et donc, vous venez d'écouter un extrait de la bande originale « The Fabelmans » composée par John Williams. Et donc, on revient sur l'actualité. Je fais une petite intro avant de commencer les chroniques.
Oui, l'agenda.
Un tout petit agenda, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais juste pour rappeler une date donc à Orléans, car à la médiathèque d'Orléans, il y a en ce moment un événement national pour favoriser la découverte et la diffusion de films documentaires. Il y a Les Yeux d'Oc, qui est une plateforme où il est possible de regarder beaucoup de documentaires. Et lorsqu'on est adhérent à la médiathèque d'Orléans, on accède gratuitement à cette plateforme. Et c'est gratuit d'adhérer à la médiathèque. Donc voilà, tout est gratuit. Merci le service public. Et tous les ans, il y a un prix du public, Les Yeux d'Oc. Et donc, on visionne 4 documentaires. Et le public choisit le documentaire qu'il préfère. Et donc, un prix lui est remis. Et donc, chaque documentaire est projeté à la médiathèque d'Orléans, à l'auditorium. Et donc, on arrive à la fin, car cet événement se termine le 1er avril. Et donc, il y a le dernier documentaire de la sélection qui est projeté le samedi 1er avril à 15h. Et ce sera « Dans la terrible jungle » de Omblin Lay et Caroline Capel, un documentaire de 2018. Et si je lis le pitch rapidement, à l'Institut médico-éducatif La Pépinière, une dizaine d'adolescents insoumis, francs et spontanés se prêtent au jeu de la mise en scène et du cinéma. Terrain d'expérimentation musicale, poétique, amoureuse et philosophique, le centre prend alors un caractère d'exutoire. Je ne connais pas le film, mais je conseille à tous et toutes de voir ces documentaires, car je fais vraiment confiance à la sélection des Yeux d'Oc, qui est toujours une sélection de qualité, et des films que l'on peut rarement voir autrement. C'est très compliqué de les trouver, donc c'est vraiment l'occasion là de les voir sur grand écran, donc à la médiathèque d'Orléans. Et sinon, si vous ne pouvez pas assister à la projection, vous pouvez voir tous les documentaires, les quatre documentaires sur la plateforme Les Yeux d'Oc, donc en passant par la médiathèque d'Orléans pour les adhérents d'Orléans, de la médiathèque d'Orléans. Et vous pouvez donc les revoir et voter en ligne pour le documentaire que vous préférez. Vote qui peut se faire jusqu'au dimanche 2 avril minuit.
Tu peux citer les trois autres documentaires?
Et les trois autres, oui, tout à fait. Alors, il y en a un qui a eu une sortie cinéma. Enfin, en tout cas, qui est sorti à Orléans. C'est La Cravate, hein, de Étienne Chailloux et Mathias Théry.
Que j'ai vu.
Voilà, oui. On avait parlé à l'époque, enfin moi je ne l'avais pas vu à l'époque, donc c'est l'occasion du coup de le voir. L'autre film, les deux autres, il y a Haï de A.L. Théry et Marine Otogali, que je n'ai pas vu, et je crois pas qu'il ait eu une sortie salle, en tout cas pas à Orléans. Et le dernier des quatre documentaires, c'est 143 rue du désert de Hassen Ferhani, un film franco-algérien de 2019 que j'ai vu, qui est incroyable, qui est très très beau, sur une femme algérienne qui est seule dans sa boutique, hein, très indépendante, qui vend aux routiers des plats, des cigarettes, qui s'appelle Malika, qui est un personnage incroyable.
C'est pas elle qui est dans le désert ?
Oui, si, c'est si, ça. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Ouais.
C'est un très beau film. Et donc, j'ai hâte de voir les trois autres parce que même en dehors du prix du public, c'est des films à voir.
Le film récompensé l'an passé était Toto et ses sœurs.
Oui, c'est ça. Très, très beau film aussi. Oui. Incroyable. Oui. Voilà pour l'actualité. Donc, on peut passer aux chroniques des films donc actuellement à l'affiche. Et rappelle-moi, Claude, ce que tu as vu comme film.
Bien, j'ai vu Le Bleu du cafetan, donc je te laisse parler, puisque je te laisse la parole, puisque tu l'as vu. Et
on peut donc en discuter après. Donc effectivement, Le Bleu du cafetan de Mariam Touzani, c'est son deuxième long-métrage. Je n'ai pas vu son premier, qui était Adam, réalisé en 2019. Et l'histoire donc, se passe au Maroc. C'est un couple, Halim et Mina, un couple d'artisans et de commerçants spécialisés dans la confection et la vente de caftans. Et Halim...
Rappelle ce qu'est un caftan.
Un caftan, c'est un tissu. Un tissu brodé, pardon.
Oui, c'est
un tissu brodé.
C'est un vêtement brodé.
Une technique très spécifique, je suppose une technique marocaine.
Oui,
qui est très particulière et qui est confectionnée par les malams. Ce métier artisanal, et donc c'est fait à la main, c'est brodé des tissus, des vêtements brodés à la main, et c'est souvent des robes, les robes portées par donc les femmes, et c'est souvent des tenues traditionnelles portées à des grandes occasions comme le mariage. Et donc Halim qui confectionne donc ces caftans cache depuis toujours son homosexualité, malgré son amour pour sa femme Mina. Et donc on va suivre leur histoire, surtout à l'arrivée d'un jeune apprenti qui va apprendre le métier de malam. Et donc toute une histoire va se passer entre trois. C'est un très beau film. Mariam Touzani, avec sa chef opératrice Virginie Surde, ont travaillé une image avec, je trouve, une très grande sensualité. Je trouve qu'il y a toute l'image parle, elles veulent chaque image veut dire beaucoup de choses, suggère énormément. Et il y a aussi un jeu des regards que je trouve aussi vraiment intéressant, qui parle en fait. Il n'y a pas besoin de dialogue, tout passe par les jeux de regard, par l'image.
Je fais juste une intervention en disant que quand tu parlais de l'image, c'est filmé avec la même fluidité que les tissus que manie le maître.
Oui, je suis d'accord. Effectivement, surtout qu'elle filme des détails de la technique artisanale, et donc les tissus, toute la broderie, c'est fait tout en douceur. C'est très agréable de voir les images. Alors que on parle d'un sujet qui est très important, l'homosexualité est tabou, en tout cas au Maroc. Et donc Mariam Touzani, la réalisatrice, propose vraiment un film d'une très grande justesse, je trouve, sur l'amour en fait, en général. C'est pas que sur l'homosexualité, aussi le respect de l'autre avec qui on vit.
C'est un film sur la tolérance.
Tout à fait, tout à fait. C'est très 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 finement réalisé. Elle filme vraiment la beauté des gestes. En rendant hommage aussi à ce métier artisanal qui disparaît, malheureusement, comme beaucoup de métiers artisanaux. Et chaque plan est travaillé par la photographie et la lumière. C'est très, très beau. Chaque détail du quotidien aussi qui est filmé, ça aussi, j'ai beaucoup aimé des objets qui parlent d'eux, que ce soit de lui ou d'elle, un peigne, juste des choses qui traînent, mais qui veulent dire tellement de choses et qui parlent de chaque personnage. Et il n'y a pas besoin de dialogue, d'explication. Non, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et ça rend vraiment les personnages très, très proches de nous. On est proche d'eux dans le film. Je trouve qu'on est comme si on était à côté d'eux. Ça les rend beaucoup plus accessibles. Et le scénario qui est coécrit aussi avec son compagnon Nabil Ayouch, qui est également réalisateur. Je trouve que le scénario tient bien la route.
Réalisateur et grand cinéaste.
Oui, Nabil Ayouch. Oui. Eh ben, je trouve que du coup, Mariam Touzani, on peut dire aussi que c'est une grande cinéaste avec ce deuxième long métrage. Je n'ai pas vu le premier, mais en tout cas, ce deuxième long métrage me donne envie de voir son premier. Et ce scénario, je trouve qu'il tient bien la route parce qu'il n'y a pas de pathos malgré l'histoire qui est très, très dure. Et je trouve aussi vraiment intéressant parce que ça montre une masculinité qui est respectueuse et bienveillante de l'autre, et il y en a besoin. Je trouve qu'il y en a besoin en ce moment. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je vous conseille vivement de le voir. Et je te laisse la parole, Claude, si tu veux rajouter.
Non, je suis entièrement d'accord à ce que tu viens de dire. Et de plus, moi j'ajouterais juste quelques mots sur... On est en présence d'une femme qui a une vraie écriture cinématographique. Et ça, je veux dire, ça c'est rare. Non, pas qu'elle soit femme avec une écriture cinématographique, c'est rare de voir des réalisateurs avec une vraie écriture cinématographique. Et là, il y a une vraie écriture. C'est un film d'une très grande sensibilité, tu l'as dit. C'est aussi, pour moi, c'est un film, je dis, sur la tolérance, d'une très grande pudeur, d'un grand respect. Et c'est avec une sensualité et sensibilité que le toucher, les tissus. Et c'est aussi l'histoire d'une confession sur fond d'une fin de vie. Parce que c'est la fin de vie. Et alors, quand je dis qu'il y a une vraie écriture cinématographique, quand on découvre que cet homme est homosexuel, je ne dirais pas... Mais la scène qui est filmée est d'une très grande inventivité. C'est une femme qui est créative, inventive dans sa mise en scène. Et moi, ça m'a fait énormément plaisir de voir quelqu'un qui se sert d'une caméra et qui fait parler les images. Là, il n'y a pas besoin de parole. On comprend. Et elle a tout compris, elle, dans le cinéma. Et c'est un film... Par exemple, on va découvrir, quand tu disais qu'on était parlé de pathos, on va découvrir la maladie de cette femme. Mais c'est amené par petites touches, petites touches, petites touches. Il n'y a qu'à la fin qu'on découvre quelle est cette maladie. Et on ne dit pas qu'elle est malade. Non, Il suffit d'un plan et on sait ce qu'elle a. C'est, je veux dire, c'est un film d'une, pour moi, d'une très grande intelligence et d'une grande créativité. La réalisatrice fait par les images et elle a, je pense que son conjoint Nabil Ayouch, qui est pour moi un grand cinéaste, je me souviens très bien des Chevaux de Dieu, qui est un film sur la radicalisation, qui est un des meilleurs films que j'ai vus, contrairement à ce que dit Fabien. Et il en reste avec notre ami. Qui a fait la. Bon, ça me reviendra. Je perds la mémoire des mots. Donc, ça me reviendra tout à l'heure. Et. Qui n'est pas du tout. On ne sent pas l'influence de son conjoint. Il filme d'une façon tout autre son conjoint. Elle a sa propre écriture cinématographique. Et moi, je dis que c'est. Alors, c'est un film quand même. Il faut savoir qu'il a été récompensé à. C'est les Valois, voilà, c'est les Valois d'or, Valois d'argent, au festival animé par Dominique Besnéard à Angoulême à la fin août de 2022. Voilà, c'est le Valois, je pense que c'est le Valois d'or. Mais ce film a été récompensé, et je dirais récompensé à juste titre.
Alors, je regarde en même temps le Bleu du Caftan, donc il a été récompensé effectivement, mais il a reçu le prix Fripeski à Cannes en 2022, dans la sélection Un certain regard.
Oui.
Je crois que c'est Fripeski qu'on dit. Bon. Et il a reçu le prix du jury au festival de Marrakech en 2022. Et il a été sélectionné au festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou en 2023. Et il a reçu le prix du meilleur film de fiction à Tournai. Ramdam en 2023. Donc en Belgique, tout à fait. Oui, tourné. Par contre, j'ai pas le prix Valois.
Mais il me semble qu'à Angoulême.
Je le vois pas là.
Bon, il semble bien qu'il ait été récompensé à Angoulême. Il me semble. Je regarderai tout à l'heure à la pause. Je vous recommande ce film parce que. Vous allez découvrir ce qu'est une écriture cinématographique. J'étais très très interpellé par ses plans, par ça. Mais c'est une fluidité. Ça coule. Il y a très peu de paroles. C'est tout dans le regard, comme tu disais si bien. C'est tout dans le regard. C'est le toucher du tissu quand il se touche. L'homme et la femme, on est sur le tissu, on sent. Moi, c'est un film d'une grande sensibilité, d'une grande sensualité, comme tu disais. Moi, je vous recommande, je ne sais pas combien de temps il va encore rester à l'écran, mais je dois dire que c'est la première fois que j'allais dans la salle numéro 4 des Carmes à 16h. J'ai un peu tardé, j'étais au deuxième rang. Hein.
Oui, c'est une toute petite salle aussi.
Mais c'était plein. Comme quoi, c'est un film qui marche peut-être du bouche à oreille, mais bien, je vous recommande d'aller voir ce film.
Parce que je l'ai vu aussi dans la petite salle. Alors qu'il mériterait d'être... c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de communication autour du film, et tu as raison, c'est sûrement du bouche à oreille qui fait que...
Je pense. Il pourrait
passer dans une plus grande salle pour que plus de monde puisse le voir. C'est très, très...
Mais tu sais très bien que on en parlera en aparté tout à l'heure, le problème c'est qu'il y a trop de films en ce moment. Il y a trop de films, et Marin Carmizizé, ils sont en plus trop longs.
Oui, pour certains films. Oui. Mais c'est vrai que depuis la fin du confinement, parce que je ne vais pas dire la fin du Covid, mais depuis qu'on a réouvert les salles et depuis que le public revient aussi progressivement, il y a tous les films qui sortent en même temps, et c'est très très compliqué vu qu'il y a un embouteillage. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de films.
Et Angers, qui est au premier plan, qui limitait les films à 1h30, j'ai vu cette année des films d'une heure 40, d'une heure 42, rarement au-dessus d'une heure 40, mais s'ils veulent... Il n'y a plus beaucoup de films qui font 1h30. Hein.
Oui, c'est vrai que beaucoup de réalisateurs, réalisatrices se permettent de faire des films plus longs. On a pu voir pas mal de films qui font même 3h. Parfois, ça n'a pas forcément l'utilité pour certains films.
On est bien d'accord. Mais, alors là, c'est un film de 2h, Le Bleu du Caftan, mais le temps apporte quelque chose. Là, Le fait que le film soit long, ça apporte quelque chose. Mmh. Il y a d'autres films, ils sont longs, ça n'apporte rien. Mmh. On supprime une demi-heure, on dirait exactement la même chose. Mais là,
c'est nécessaire.
C'est nécessaire.
Mmh. Oh, mais
je vous conseille d'aller voir ce film de Marianne Touzani.
Eh bien, on peut faire une petite pause musicale. Et donc, on peut écouter une autre bande originale d'un autre film. Je vous propose un film actuellement à l'affiche. C'est Dalva de Emmanuel Nico, qui a fait appel au compositeur français Frédéric Alvarez. Et on écoute et on se retrouve tout de suite après. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Vous venez d'écouter un morceau de la bande originale du film Dalva d'Emmanuel Nico. Et ça tombe bien parce que donc, Claude, tu l'as vu ce film.
Oui, alors Emmanuel Nico avait fait un autre film qui s'appelait Adam, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très sûr, mais tu vas vérifier. Et Emmanuel Nico est belge et a fait la célèbre école de cinéma en Belgique, qui s'appelle l'IAD, qui est une grande école de cinéma. Ce film, c'est un film de fiction.
C'est son premier long-métrage.
Oui, c'est son premier long-métrage. Donc, ce n'est pas elle qui avait fait Adam, c'est Mariam qui avait fait Adam. Ok, je confonds. Ouf. Bon, ceci dit, elle a, pour faire ce film, qui est un film de fiction, elle s'est immergée pendant très longtemps dans un centre d'accueil d'urgence où sont recueillis, comme son nom l'indique, des enfants en grande difficulté familiale et qui sont retirés à leur famille. Donc c'est à partir de ces observations qu'elle a fait un film qui est un film de fiction, on s'entend bien, mais inspiré de différentes phases qu'elle a vues dans et d'histoires qu'elle a vues dans familiales qu'elle a vues dans ce centre d'accueil d'urgence. Et il faut savoir que son frère est éducateur spécialisé. Donc, elle baigne un petit peu dans le milieu. Alors, quelle est l'histoire là ? En fait, c'est une jeune fille, pas une jeune fille du tout, c'est une enfant qui a, je crois, à l'époque 11 ou 12 ans, enfin, dans son film, qui a 11 ou 12 ans, qui est violée par son père et qu'on retire effectivement de sa famille, enfin de son père, puisque on est dans une famille monoparentale, la maman est en partie ne supportant plus le mari, donc on la retire pour la mettre dans ce centre d'accueil. Et cette jeune femme, qui a 11 ans, je crois, ou 12 ans, mais elle s'habille, elle est maquillée, elle joue aux femmes, en fait. Et c'est ce qu'elle a vu aussi. Et elle est totalement dans le déni. Elle n'a de cesse de répéter aux éducateurs, aux gens qui sont présents là, mais mon papa, on vit une grande histoire d'amour, vous me le retirez, vous me privez de plein de câlins, vous me retirez de plein de choses, vous n'avez rien compris, mon père il m'aime et foutez-moi la paix. Donc, partant de là, toute la difficulté du film, c'était de choisir les, j'allais dire, les, comment raconter cette histoire, avec quel plan, comment la raconter. Donc, il y a toute la phase du déni qui est, à mon avis, bien mise en scène, dans la mesure où on assiste à de nombreuses fugues. Elle part, elle retourne chez elle, alors qu'il y a les scellés, elle brise les scellés, elle retourne chez elle. Enfin, elle est totalement dans le déni. Le passage de la prise de conscience du déni, c'est nettement moins bien filmé et mis en scène. Là, à mon avis, il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est que je vois mal la bascule. Elle rencontre quand même son père en prison, qui éclate en pleurs en disant « je suis un pédophile, tout le monde, je suis accusé par tous les co-détenus d'être un voyou, d'être un pervers, enfin bon ». Il vit effectivement ça très mal. Et est-ce que c'est à un moment-là qu'a eu la prise de conscience ou pas? Mais on ne voit pas au moment où ça bascule. Et puis, moi, il y a un éducateur, là, qui est d'une... Alors, l'éducateur est censé jouer le père, parce que, bien évidemment, les tentatives de séduction sont, à mon avis, pas très nombreuses, alors que sur le comportement d'une telle femme, très perverse, je pense que les tentatives de séduction auraient dû être plus nombreuses. Et on n'en voit qu'une, Alors que, connaissant un petit peu ce genre de femmes et de leur comportement, en général, elles sont totalement, toujours et constamment dans la séduction du père. Donc là, c'est pas très bien mis en valeur. Et cet éducateur, moi, je l'ai trouvé d'une brutalité monstre. En fait, ce sont des... Alors, on dit... ils sont privés d'amour. Non, elle n'était pas privée d'amour. Elle était mal aimée. Elle était mal aimée par son père parce qu'il a violé, effectivement.
Il l'a violé, donc c'est un agresseur. En fait.
Oui, tout à fait, c'est un agresseur. Mais je veux dire, pour lui, qui est un pervers, c'était pour lui une forme d'amour. Les pervers, c'est très difficile, j'allais dire, à soigner. Hein, parce qu'ils s'enferment dans une espèce d'autosatisfaction. C'est difficile de démonter le système. Hein.
Et oui, mais il faut le retirer du système.
Oui, il faut. On est d'accord. Mais le problème, c'est que là, il est l'éducateur. Il est extrêmement sévère. On peut remettre les gens, faire appliquer la loi.
Il est sévère avec l'enfant.
Il est sévère avec elle, comme avec tous les autres personnes. D'accord. Mais on peut faire respecter la loi. On peut le faire sans être violent, sans crier, sans avoir le comportement qu'il a. Je veux dire, ça, moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ça, comment on peut rééduquer? C'est des gens ce sont des jeunes filles qui ont été mal aimées. Si on les violente verbalement ou physiquement, on va pas réussir. Moi, j'ai quand même été voir un petit peu. Pas les critiques des officiels critiques, mais les critiques des gens comme nous qui écrivent sur Internet. Il y a un type, il dit, moi, c'est centre d'école, quand je vois le comportement, loin de moi. Le type, il a la même réaction que moi.
Oui, donc il y a un problème avec le centre d'accueil, du coup. Il y a un problème donc avec le père qui l'agresseur.
Il y a un problème avec l'on-père. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui puissent me répondre, parce que je n'ai pas forcément raison. C'est mon ressenti. J'ai peut-être pas le bon ressenti. Mais moi, c'est comme l'éducation. Hein. En France, on est dans le punitif. Mais on peut très bien éduquer dans la bienveillance, ce qui n'exclut pas la rigueur et les exigences. Mm-hmm. Mais ça, on ne sait pas en France. On ne sait pas faire ça. Aux États-Unis, ça fait, mais pas nous. Et là, je suis l'attitude de ce garçon. À un moment, il essaye de la séduire, elle tombe dans ses bras. Et là, j'ai pas entendu les paroles qu'on dit dans un moment pareil.
Mais
non.
Mais du coup, la réalisatrice, elle ne met pas elle critique pas ce centre d'accueil.
Non, elle critique.
Elle se positionne comment?
Non, elle critique pas ce centre d'accueil. Elle a vu ce qui se passait dans les centres d'accueil. Elle ne critique pas. Est-ce que
elle défend au contraire ce type
d'éducation ? Elle défend, elle raconte vraisemblablement ce qu'elle a vu. Mmh. Alors il n'y a qu'un moment où l'éducateur fait front et défend la jeune femme, c'est quand elle détruit le bureau de la juge d'instruction. Il y a tout qui valse. Là, effectivement, il prend position. Mais, par exemple, quand elle essaye de le séduire, elle tombe dans ses bras, il la repousse, mais ce n'est pas la repousser pour lui dire non. Non, il y a des règles, il y a une loi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu n'as pas le droit de me toucher, je n'ai pas le droit de te toucher. Et ça, ce n'est pas entendu. Et ça, moi, dans ce film, il y a quelque chose qui... Ou elle n'a pas compris, mais moi, des pervers et perverses, j'en ai vu. Hein. Je veux dire que c'est... faut être bien avec soi, hein, parce que sinon, c'est la catastrophe. Mmh. Et là, il n'a pas... Non, non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Mmh. Tu n'as pas le droit de me toucher et je n'ai pas le droit de te toucher parce qu'il y a des règles et je suis ton éducateur et toi, tu es ici. Je suis là pour te remettre, pas dans le droit chemin, mais pour que tu sois une personne debout et aimante et je n'ai pas le droit de faire ça et tu n'as pas le droit de le faire. Je n'ai pas entendu ces paroles. Moi, c'est quelque chose... Alors, je vais peut-être approfondir. Comment ?
C'est un gros problème, effectivement.
Ah, moi, j'ai mal compris le film, ce que j'admets, mais j'aimerais bien que quelqu'un, d'autres personnes qui aient vu le film, puisse m'en parler. Moi, je dis que là... Alors, malheureusement, ma femme, qui était éducatrice, qui s'occupait d'enfants totalement inadaptés, j'aimerais bien avoir son avis, parce que, je voudrais avoir son avis. Bon, elle me dit, effectivement, l'éducateur pose la loi. Oui, je suis d'accord. Mais on peut poser la loi sans matraquer les gens. Hein.
Oui, effectivement.
Hein, on peut en parler, on peut poser la loi. Non, vous n'avez pas le droit. Non, point. Et là, on n'a pas... Moi, j'ai connu des éducateurs, mais dans les années 70, il fallait qu'ils soient solides. Hein, parce que... notamment certaines jeunes filles, c'était la séduction constamment.
Oui, mais tu m'intrigues quand même avec ce film.
Ah ben, je t'engage. Moi, je me trompe peut-être totalement. Peut-être que j'ai mal vu le film et j'aimerais bien justement avoir d'autres avis. Je suis le seul à l'avoir vu, mais j'aimerais bien Gogob, notre ami Xavier, aille le voir. Moi, il y a quelque chose sur la... Il n'est pas dans la sévérité. Il est... dans une espèce de brutalité. Il est toujours... Il n'est pas... Non, non, non. On peut le dire... Non, tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas.
Oui, que les choses soient dites clairement.
C'est pas dit. Il la repousse parce qu'elle tombe dans ses bras. Il la repousse, mais jamais il lui dit... Non, tu l'as... On peut dire ça. On peut l'expliquer. Et ça, je n'ai pas entendu.
D'accord.
Alors, où j'ai mal vu le film, ce que je peux admettre, mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre m'apporte la contradiction ou son ressenti vis-à-vis de ce film. Moi, ça m'a, contrairement à ce que beaucoup de gens disaient, moi, je suis très en recul sur ce film. Et les éducateurs, hein, moi, j'en ai connu, il y en a un, il s'est immolé place Saint-Michel. Hein, donc, c'est des vies très difficiles. Hein. C'est des vies pas possibles. Il ne faut pas faire ça toute sa vie. Il faut faire ça 4-5 ans, mais après, il faut partir. Hein.
Y a-t-il autre chose sur ce film que tu
Non, mais si. Et autre chose, c'est que j'aimerais bien avoir l'avis d'autres personnes parce que ils ont forcément d'autres ressentis. Moi, c'est cette violence. J'irai voir sur Internet ce soir ce qu'ils en pensent. C'est pas une attitude qui me semble convenue pour un éducateur. Il est toujours dans une espèce de révolte. C'est vrai qu'elle pousse. C'est le part de femme qui pousse jusqu'à... Le bouchon toujours un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Mais on n'est pas obligé de répondre par des formes violentes sans agresser. On peut être violent sans agresser. Mmh. On peut aussi mettre des règles, mettre des bornes, mettre des normes sans... pour autant être dans l'exagération et l'espèce de une espèce de virilité qui me semble mal avenue, disons. Bon,
on arrive à la fin de cette
on arrive
émission,
à la fin que... j'ai beaucoup parlé.
Non mais t'en fais pas.
Oui, parce que c'est tout le monde, j'ai regardé, il y a des étoiles partout dans ce film, sauf les cahiers du cinéma.
Oui, bon. D'accord.
Bon, mais pour d'autres sûrement, j'ai pas lu hein, les critiques, mais sûrement pour d'autres raisons. Alors c'est filmé, Oui, c'est filmé correctement, mais j'allais dire, on est très loin de notre amie Mariam Touzani, qui a une écriture ce matin. C'est étonnant parce que les Belges, en général, ils savent faire du cinéma. Mais là, on pourrait croire que c'est un documentaire. Alors, par contre, la petite fille qui joue ce rôle, elle a 11 ans. Mais alors, elle est... Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a été suivie par un psychologue pendant tout le tournage. Hein. On ne sort pas, psychologiquement d'un tel film très serein. Hein. En général, on a subi des chocs, on a joué des choses qu'on ne connaissait pas forcément. Et,
c'est pas anodin, effectivement.
C'est pas anodin.
Même si c'est sur un film de fiction.
Ben, j'en ai terminé, mais j'aimerais bien que vous m'apportiez votre ressenti. Je ne dis pas la contradiction, je dis votre ressenti. Je suis un homme de dialogue, votre ressenti, et moi, je l'ai ressenti comme ça.
Je vois que ce film, il a été en compétition à Cannes également en 2022. Oui. Et il a remporté le même prix que Le Bleu du Caftan, le prix Fipresci ou Fipreski.
Oui.
Donc il a plu apparemment, en tout cas, à une certaine partie de la critique.
Ah, mais pris au premier degré, ça, on applaudit. Hein. Mm-hmm. Mais quand on fouille un peu, quand on essaye d'approfondir... moi, je suis très, très, très quand même interpellé par ce film.
D'accord.
Enfin, pas par le film, par l'attitude de l'éducateur.
Mm-hmm. D'accord. Mais le film a reçu quand même d'autres prix. Hein. Il a été récompensé aussi à Namur. Et puis, l'actrice Zelda Samson, donc c'est l'enfant,
oui.
la petite fille, qui a reçu le prix de la meilleure actrice à Sao Paulo.
Ah oui, non, mais je suis alors entièrement mérité. Mm-hmm. Hein, il n'y a aucun souci à ce sujet.
D'accord.
Mais deux reproches à ce film, l'attitude de l'éducateur. Et deuxièmement, le déni est très bien mis en scène, mais la bascule, la prise de conscience du déni et autres, il n'y a pas les scènes qui sont, qui argumentent suffisamment les propos de ce que veut faire notre réalisatrice.
Eh bien, allez quand même voir Dalva, donc d'Emmanuel
oui.
Nico,
ah, oui, oui.
Nico, Emmanuel Nico pour,
Dalva, oui.
Pour donc donner aussi votre avis. Faites-vous votre propre avis, c'est important. Nous, on n'est pas non plus, on n'est pas la vie. Quand même, on donne juste notre avis personnel. Après, à vous de faire votre propre avis. C'est très
important.
Et
allez voir le film. Surtout, allez voir le film.
Évidemment, et d'aller voir d'autres films. Soyez curieux et curieuses du cinéma. Nous allons donc s'arrêter là. J'en profite puisqu'on ne l'a pas dit en début d'émission, mais on fait un petit coucou donc, aux autres membres de l'équipe quand même. Donc Gob, Fabien, Michel, Emmanuel.
Emmanuel, qu'on n'a pas revu depuis... fort longtemps, je suis très inquiet.
Il est très occupé.
Il est très occupé.
Et je vous invite, auditeurs, auditrices, à rester sur Radio Campus Orléans, à continuer à nous suivre en étant replay sur le site internet de Radio Campus. Et mercredi prochain, c'est l'autre émission de cinéma donc de Vincent, Julien, Arnaud. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour continuer à parler de cinéma. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, Claude.
Merci, Céline, pour ton accompagnement. Merci.
Avec plaisir.
Et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Vous serez à l'abri des pollens.
Bye bye.